Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft, une association créée à l'UTC en 2016 qui héberge des services web respectueux de la vie privée et puis qui fait de la sensibilisation sur les questions du numérique et du libre, notamment à travers cette émission. Et puis aujourd'hui, on continue notre série d'émissions sur les rapports entre culture libre et culture paysanne. On avait déjà fait une émission il y a deux semaines. Et pour ça, je suis toujours avec Stéphane. Salut Stéphane.
Bonjour Quentin.
Bon alors, deux semaines, ça commence à faire longtemps, hein, surtout qu'on avait prévu d'enregistrer la semaine dernière. Alors je pense qu'il y a un petit rappel de ce qu'on s'était dit la dernière fois et bienvenue. Et écoute, je te laisse te lancer.
Alors en fait, on a utilisé comme méthode, on va dire, de commenter des extraits d'un article du Framablog qui s'appelle « Contre les GAFAM du légume ». On a pris la version audio lue par Sueltam, vu qu'on était à la radio, c'était plus pratique. Même si on va voir tout à l'heure qu'on va faire une sorte de mixte, hein, tu vas devoir nous finir les extraits Quentin, suite à un petit souci d'encodage de notre côté. Alors cet article, c'est une interview d'Éric Marchand qui appartient à la coopérative Jardine en Vie. Et Jardine en Vie, donc, c'est une coopérative qui vend des semences, des plants et des légumes issus de semences paysannes. Alors qu'est-ce que c'est que des semences paysannes? Eh bien, ce sont des semences qui ne sont pas des hybrides F1. Alors du coup, je ne vous ai pas donné beaucoup de clés, mais ce sera l'objectif notamment de l'émission d'aujourd'hui, de clarifier ces termes. Et une fois qu'on l'aura fait, si ça vous intéresse, donc on peut accéder à l'offre de Jardine en Vie par l'URL jardineenvie.com et c'est situé à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, à côté de Valence. Alors, avant de se relancer directement, un petit résumé rapide des termes, des concepts qu'on a abordés dans l'épisode 1. Donc, on a parlé sélection artificielle, hein, et on a rappelé donc la sélection artificielle, c'est le principe de sélection de variétés par l'homme. On a parlé OGM, donc c'est un exemple de sélection artificielle, mais qui passe par la modification directe du patrimoine génétique par l'homme grâce au génie génétique. On a parlé d'organismes transgéniques, un cas particulier d'OGM dans lequel on a introduit un gène étranger dans un organisme. On a parlé ensuite un peu propriété intellectuelle, donc on a rappelé qu'un brevet était un titre de propriété industrielle exclusif. Et donc, en lien avec notre thème, on a parlé brevetabilité du vivant, et notamment des problèmes qui sont posés par ce principe de brevetabilité du vivant, par les problèmes donc posés, parce qu'il crée une dépendance entre les agriculteurs et les multinationales qui maîtrisent les semences et donc qui sont capables de breveter. On a parlé également solutionnisme technologique, hein, c'était en fin d'émission, c'est-à-dire l'idée que, eh bien, en face de chaque problème que l'on rencontre, il faut innover, faire de la recherche, faire travailler des tas d'ingénieurs pour, eh bien, essayer de trouver des solutions techniques aux problèmes que l'on rencontre. Alors évidemment, c'est pas du tout une approche à proscrire, mais par contre, elle a tendance à masquer, eh bien, le fait de rechercher, de retourner un petit peu à l'origine des causes, et de voir si l'on peut pas trouver d'autres façon de faire plutôt que eh bien de rajouter de la technique sur la technique. Donc par exemple, hein, avec la surexploitation de la terre, eh bien on a vu qu'on peut évidemment rajouter des engrais qui vont reposer des problèmes, réappliquer de plus en plus de mécanisation, etc. Mais on peut aussi à un moment, eh bien, revenir un peu à des fondamentaux sur la façon de varier les cultures, de laisser reposer la terre, etc. etc. On a parlé également concentration des pouvoirs et donc on a fait le parallèle avec des thématiques que l'on traite souvent ici dans le domaine du numérique avec les GAFAM. Et enfin, eh bien, on a parlé de commun. Alors, qu'est-ce qu'un commun? Eh bien, on l'a posé comme étant un ensemble de ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté. Et puis, bien, je propose de lancer le premier extrait, qui serait le quatrième des deux épisodes, qui va nous permettre de revenir sur cette idée.
Tous ceux qui voulaient rester en association n'ont pas pu développer les idées qu'ils avaient, à de rares exceptions. C'est l'une des limites du mouvement du logiciel libre. Survivre grâce aux dons, c'est bien. Mais est-ce que ça permet vraiment de développer une ligne d'objectifs et de l'atteindre? Nous sommes en entreprise. Mais le but, c'est de grandir, pas de grossir. On retrouve la différence qu'on a relevée tout à l'heure. On peut, à la rigueur, se passer de capitaux pour une activité qui n'en demande pas, à partir du moment où il faut acquérir des terres, les remettre en forme parce qu'elles ont été détruites par une politique de terres brûlées, Former des gens parce que plus personne n'apprend ces métiers comme nous les pratiquons, restaurer les semences, c'est quelque chose qui demande énormément de ressources et de temps, bien plus que l'informatique. Il faut se dire que sur le vivant, c'est une démarche de long terme pour apprendre un métier, développer des savoir-faire. Si on n'est pas en capacité de rémunérer des personnes, de faire grandir quelque chose qui soit viable, de former des gens, jamais les semences paysannes ne seront considérées comme une alternative crédible. C'est aussi ce qu'on peut dire du logiciel libre, d'une certaine manière. Il a conquis des serveurs,
mais il n'a pas conquis le poste de travail, alors que, d'un point de vue technologique, rien ne l'empêcherait de le faire. Les smartphones sont à base de Linux, mais leurs systèmes d'exploitation ne sont pas libres.
Merci Quentin pour ce superbe finish. Je sens que tu commences à être bien entraîné. Alors, Jardine en vie est donc une entreprise. L'extrait nous explique pourquoi ce choix a été fait, par exemple, par rapport au choix associatif, hein, parce que il permettrait notamment, et bien, de mieux diffuser les usages qui sont promus par cette entreprise. Mais donc, c'est une entreprise un petit peu particulière. C'est ce que l'on appelle une SCIC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SCIC ? Eh bien, c'est une sorte de Scope, SCIC, à toi de jouer, Quentin.
Eh bien, ce sont des statuts particuliers qu'on rajoute hein, à des entreprises classiques, des SAS, ce genre de choses. Alors, on va se baser hein, sur les définitions. Une SCOPE, c'est pour une société coopérative de production, parfois appelée société coopérative ouvrière hein, pour le haut de production ou société coopérative de travailleurs. C'est une société commerciale, donc a priori comme les autres, mais qui se distingue des sociétés classiques par une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision directement par les salariés. Donc les parts sociales de l'entreprise ont une valeur fixe et sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de la direction de la SCOP. Ce que ça veut dire, c'est qu'une SCOP n'a pas d'actionnaire, on ne peut pas acheter des actions d'une SCOP et recevoir des dividendes tranquillement comme ça chaque année. Et ça permet d'avoir une maîtrise du projet d'entreprise, ce que nous rappelait l'article, ce qui pose parfois problème dans le cas du logiciel libre où on a un statut extrêmement précaire avec une ou deux personnes qui vont développer un logiciel sur leur temps libre avec des dons et donc sans assurance de pouvoir continuer. Beaucoup de projets tombent de cette manière. Et donc c'est l'ambition de Jardine en vie de réussir à mener un projet, un objectif en se retrouvant autour d'une entreprise. C'est aussi adapté à des entreprises à taille humaine où on va pouvoir avoir un processus de gouvernance qui est collectif. Et aujourd'hui d'ailleurs dans le logiciel libre, on retrouve aussi énormément de scope, notamment à travers le réseau libre entreprise, puisque voilà, tous les salariés peuvent prendre le temps de discuter ensemble et de monter ce projet. Une variété de scope, c'est la SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Globalement, c'est la même chose que la SCOPE, simplement il y a des acteurs tiers qui peuvent prendre des parts dans la coopérative, comme donc des collectivités ou des particuliers. Et en général, ces coopératives donc se montent pour produire des biens ou des services d'intérêt collectif au profit d'un territoire ou d'une filière d'activité. Donc c'est ça la différence majeure entre une SCIC et une SCOPE.
Ça a l'air intéressant, Quentin, ces statuts d'entreprise dont tu nous parles là, mais c'est pas un peu théorique, c'est-à-dire que ça n'existe pas vraiment des entreprises comme ça où les gens y discutent, ils partagent le pouvoir, ils partagent le capital. On n'entend jamais parler de ça là.
Bah c'est vrai que non, hein, si on allume les infos tous les jours, on va plutôt entendre parler de la santé de nos chères entreprises du CAC 40. Et pourtant, il en existe beaucoup des SCIC et des SCOC, notamment en France. Et même elles sont très actives. On a retrouvé récemment la création du collectif Licorne, évidemment en référence aux fameuses licornes françaises, hein, nos fiertés nationales. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont que des coopératives qui œuvrent notamment pour la transition écologique et pour une économie plus circulaire, pour des problématiques sociales, etc. Quelques exemples, hein. On a Télécop, un opérateur téléphonique, pareil, une coopérative. Enercop, qui fournit de l'électricité. D'ailleurs, on a des anciens de Picassoft qui bossent en ce moment chez Enercop, on les embrasse. Mobicop, pour les solutions de covoiturage. Cities, pour le partage de voitures. Railcop, pour le transport ferroviaire, pour le coup, hein, d'un projet assez ambitieux, puisque depuis l'ouverture à la concurrence de la SNCF, on a beaucoup de critiques autour de ça, mais Railcop s'est emparé du sujet pour réouvrir des lignes qui étaient peu utilisées, pouvoir faire du fret sur des courtes distances qui n'étaient pas forcément considérées comme rentables, et qui a pour projet de rouvrir une ligne entre Bordeaux et, aide-moi Stéphane, Lyon.
Je crois, en effet.
Oui, il me semble bien. La Nef, une banque coopérative qui investit uniquement dans des projets, pareil, pour la transition écologique et des projets sociaux. Label Emmaüs, qui fait du commerce en ligne, mais d'objets de seconde main, à la base essentiellement des livres, pareil, on a pas mal d'anciens de l'UTC qui bossent là-bas. Common, qui loue des appareils électroniques durables, on en a aussi parlé dans une autre émission, par exemple des Fairphone, des téléphones qui essayent d'être le plus éthique possible. Et CopCircuit, donc du commerce sur des circuits courts. Et d'ailleurs, je crois, Stéphane, que toi, tu es aussi familier avec les coopératives, puisque tu as participé à en créer une.
Alors, je n'ai pas participé directement à en créer une. Hein, c'était une création de mon collègue et ami Sylvain Spinelli, avec qui on a participé à la création du logiciel Libscénarii. Et Sylvain, avec des membres de son entourage, et puis ensuite d'autres personnes qui sont arrivées, a créé donc une entreprise qui s'appelle Kélis, et qui est en effet une coopérative qui gère le logiciel Libscénarii. Et je pense qu'on se retrouve bien dans la critique et la proposition qui était faite dans l'extrait, hein, c'est-à-dire, en tout cas, dans ce cas-là en particulier, ça a montré que ça a permis de faire vivre largement ce logiciel depuis 2004, avec une entreprise qui à la fois fonctionne très bien et dans laquelle les gens ont l'air heureux. Je crois qu'il y a une personne qui est partie depuis la création, et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec...
Et juste un tout petit mot, quand on discute avec les gens, j'entends beaucoup de gens qui finalement arrivent à la conclusion que il y a une incompatibilité entre le fait de devoir manger et de pouvoir défendre les valeurs du libre, hein, et on se retrouve à bosser dans des grosses boîtes de cloud, comme pour parler numérique, pour les gens qui font génie biologique, et dans des grosses boîtes d'agroalimentaire, parce que il faut manger. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une émergence importante de scope qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut manger, et qui défendent des projets locaux, ancrés, sociaux, solidaires, etc. Donc vraiment, on commence à avoir des alternatives, et cet argument tient de moins en moins, mais elles sont simplement un peu méconnues.
Oui, et puis effectivement, dans le tableau que tu nous as brossé, c'est quand même pas mal, hein, même si évidemment tous ces projets ne traitent pas tout. Par exemple, la Nef, c'est ma banque, mais c'est en partie ma banque, ouais. Puisque je suis obligé d'avoir une autre banque, puisqu'ils ne fournissent pas de compte courant. Comme tu l'as dit, Railcop est en train d'ouvrir des lignes, mais évidemment, on ne peut pas faire que du Railcop, etc., etc. Mais néanmoins, tout ça, c'est assez récent, ça se développe pas mal, et donc c'est une bonne... je pense que c'est une bonne piste pour la suite. Et si on faisait une petite pause musicale, Quentin ?
Allez Stéphane, on va s'écouter le premier extrait dont tu m'as dit que je n'avais pas le droit de l'écouter avant de le lancer, donc je le lance à l'aveugle, c'est parti.
Eh bien, on est de retour dans La Voix Libre. Donc, c'était Sous le Rocher, une composition de Chosto aka Quentin Duchemin en CC BY SA, que l'on peut trouver donc sur tube.chosto.me. C'était pas mal, Quentin, non ? Qu'est-ce que t'en dis ?
Tu m'as bien eu.
Allez, on passe le cinquième extrait, deuxième de cette émission.
Le bio fonctionne à 98% avec des hybrides F1 et maintenant des OGM qui ne disent pas leur nom. Il se cache derrière le vocable matériel biologique hétérogène introduit dans le règlement AB qui s'appliquera à compter de 2022. C'est un marqueur important. On est dans le même ordre de grandeur que Linux et les GAFAM au début des années 90. Nous avons fait un grand pas de côté sur le modèle socio-économique pour pouvoir faire un pas de côté sur les semences. Nos statuts nous permettent de gérer les semences mais aussi le foncier tel des communs d'une part et d'autre part de faire appel à l'épargne populaire pour investir. Les sociétés dites agricoles, elles, n'ont pas la possibilité de faire appel à l'épargne, hors fonds agricoles préexistants. Du coup, on peut construire l'équilibre de la structure financière sur une base beaucoup plus diversifiée. La semence et l'alimentation sont des choses trop sérieuses pour qu'on en passe d'une appropriation à une autre. Les paysans ne sont pas les seuls concernés par cette question-là. L'idée consistait à revenir vers une implication de l'ensemble des parties prenantes, les restaurateurs, les épiciers, les gens qui mangent. Ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que, pour faire des semences de qualité dans le respect du vivant, nous avons aussi besoin des retours des utilisateurs des récoltes.
C'est aussi, pas seulement, mais aussi, en fonction de ces retours-là que nous définissons les critères d'évolution des semences à mettre en œuvre lors de la prochaine production de graines.
Alors c'est parti, on l'avait annoncé en introduction, un des concepts que l'on retrouve c'est celui d'hybride F1, donc on va essayer d'expliquer ce que c'est assez simplement, en vrai c'est pas très compliqué. Un hybride F1, eh bien en fait c'est la première génération d'un croisement entre deux variétés distinctes. Donc les hybrides sont issus du croisement entre deux lignées. D'habitude, dans le cadre de la production agricole, on reproduisait des plantes d'une même variété. Mais on a constaté que dans certains cas, eh bien, en utilisant des fleurs mâles d'une variété et les fleurs femelles d'une autre variété, alors la descendance pouvait présenter des caractéristiques plus intéressantes que celles des parents. Donc c'est ce que l'on appelle l'effet hétérosis ou vigueur hybride. Donc le principe, on a deux parents, deux variétés différentes, on les croise et à partir de là, on obtient eh bien une variété enfant qui a des propriétés particulièrement intéressantes. On va y revenir un petit peu, de donner quelques exemples. Alors, un hybride F1 possède donc deux allèles différents, deux versions du même gène. Et donc, comme on l'a dit, cette combinaison, eh bien, dans certains cas, peut s'avérer supérieure au cas où on a deux allèles identiques. Alors, des exemples, la plante pourra s'adapter, par exemple, à une gamme de température beaucoup plus large. Ou alors, on pourra avoir un meilleur équilibre, ou en tout cas, être plus proche de ce que l'on recherche en termes de taille de tige, de feuilles, de racines, de fleurs, de graines, etc. Donc c'est ce qui fait qu'en quelque sorte on va pouvoir obtenir eh bien, des fruits, des fleurs, des tiges qui correspondent plus à ce que l'on recherche. Alors, un autre point également, c'est que le rendement des hybrides, eh bien, en général, il est supérieur à celui des variétés anciennes. Les plantes possèdent des ressources génétiques, encore une fois, qui ont été sélectionnées, de telle façon qu'on ait une croissance plus rapide, un meilleur rendement, etc. etc. Ou que l'on puisse également résister à des conditions plus difficiles, des longues périodes de pluie, du froid, trop de chaleur, etc. Alors tout ça, ça paraît plutôt cool, en fait, puisque du coup, si on mélange des variétés comme ça et puis qu'on obtient des bonnes propriétés, c'est plutôt sympa.
Bah oui, ça a l'air génial, Stéphane. On a même envie de se dire que, comme chez les humains, le fait de mélanger du matériel génétique d'un peu partout, ça va favoriser la diversité, et ce genre de choses, la résistance, je sais pas, à des parasites. Donc là, on n'est pas en train de faire des OGM, on n'est pas en train de breveter du vivant, donc. Ça a l'air très chouette. C'est quoi le problème ? Pourquoi tu nous embêtes là ?
Alors, en fait, le problème, on va le voir, il apparaît pas tout de suite. C'est qu'en fait, les plantes F1, eh bien, elles ne peuvent pas s'auto-répliquer parfaitement. Donc, les graines produites par les plantes hybrides F1, c'est ce qu'on appelle des hybrides F2. Alors F2, c'est pas mieux que F1, puisque quand on replante les graines F2, en fait là on va avoir une divergence des caractères. Donc tous les ce qu'on avait obtenu à la première génération, les effets de résistance, la belle taille des fruits qu'on voulait, la belle couleur des fleurs, que sais-je, tout ça en fait ça va se disperser et on va perdre ces qualités très très rapidement. En fait, une partie de la vigueur hybride est perdue à chaque génération. Et en fait, in fine, utiliser de telles semences, des F2 ou des F3, ou après, je ne sais pas si on continue, mais en fait, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien, quoi.
Ah, ok, et du coup, comment on fait pour récupérer parce qu'il va bien falloir replanter des hybrides F1, quoi. On fait comment dans ce cas-là?
Tout seul, on peut pas. C'est bien là que le problème intervient. C'est-à-dire que moi, si j'achète des graines de plantes hybrides F1, c'est cool, je les plante. Donc encore une fois, ça marche super bien, parfait. Mais par contre, les graines que je vais obtenir des fruits de ces plantes, si je les replante, là, c'est le contraire, ça va commencer à être assez pourri. Et puis, encore une fois, comme on l'a vu, au bout de quelques générations, ça va être complètement pourri. Donc en fait, je peux pas le faire. Donc je rachète mes graines au semencier. Il y a que lui qui est capable, à travers des procédés de création un peu spécifiques dans lesquels il va bien isoler je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, d'autant que je ne le maîtrise pas, mais on va isoler justement les différents types de parents, faire en sorte que ça se mélange, que les gènes se mélangent, que les allèles se mélangent comme on a envie et pas autrement, etc. Donc tout ça exige un contrôle industriel assez poussé, et évidemment ce n'est plus du tout à la portée c'est plus aussi simple que simplement de prendre une graine et de la planter. Donc on voit bien que le problème, encore une fois, c'est la dépendance qui se crée entre celui qui souhaite faire de l'agriculture et puis le producteur de semences, on est obligé de racheter tous les ans les semences auprès des entreprises qui produisent ces semences.
Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi une confusion peut-être dans le grand public que j'avais aussi, c'est de se dire que quand tu achètes quelque chose de bio, tu es forcément dans... tu imagines des petits producteurs qui travaillent avec leurs propres graines, qui reproduisent leurs propres plantes, etc. Et là, le chiffre quand même de 98% du bio, pour le coup, le bio qui est très majoritairement industrialisé, évidemment, mais utilise des hybrides F1, moi je trouve que c'est un chiffre qui est quand même un peu au-dessus de ce que j'aurais imaginé, quoi, cette dépendance à l'industrie des semencières.
Ouais, c'est là où en fait on a effectivement des choses orthogonales. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, ces techniques comme la création des hybrides F1 s'articulent a priori avec d'autres procédés d'agriculture intensive, que soit la résistance, on va pouvoir faire des choses plus résistantes aux pesticides, plus adaptées à la mécanisation. On l'a vu par exemple en diminuant la taille des tiges. On va limiter par exemple la taille des tiges du blé, on va limiter la quantité de paille, augmenter la quantité de fruits. Donc, etc. Donc, en général, ça s'articule bien. Mais, en fait, c'est assez perpendiculaire avec la question du bio. C'est-à-dire que la dépendance aux semences, on peut très bien rester dépendant aux semences, ouais. Et puis continuer. Et puis, par ailleurs, effectivement, appliquer un autre d'autres protocoles de respect, de non-usage des pesticides, etc., qui est le cahier des charges du bio. Mais, en fait, tu sais, Quentin, j'ai l'impression qu'on connaît un peu ça, nous aussi, puisque tout compte fait, les GAFAM, c'est bien également un cas où on a un usage majoritaire de logiciels libres. Ouais. Eux-mêmes sont d'ailleurs des contributeurs extrêmement importants au logiciel libre, et pour autant, ça n'empêche pas sous un autre angle de créer de la dépendance. Donc encore une fois, on est un peu dans des conditions nécessaires mais pas suffisantes, et donc voilà, on retrouve un petit peu la même chose.
Et finalement, j'ai aussi l'impression que les hybrides F1, c'est pas quelque chose qui est high-tech en soi, puisqu'en soi on pourrait bricoler des hybrides F1 dans notre jardin, mais j'ai la sensation que dès qu'on commence à vouloir optimiser les choses, que ce soit le rendement, que ce soit dans le cas de la taille des tiges, que ce soit le refroidissement des serveurs dans le cadre du numérique, on introduit nécessairement une espèce de grosse organisation, des procédés industriels, et en conséquence, on a du mal à refaire ça chez soi. Et j'ai la sensation que dans quasiment tous les domaines, la recherche de l'optimisation à tout prix conduit à une dépendance à une industrie et donc à l'impossibilité de reprendre l'autonomie dessus. Et je trouve que c'est une question assez difficile, par exemple, quand on parle de transition écologique, parce que tu vois, si on fait les trucs dans son coin, in fine, peut-être qu'un serveur chez soi, c'est moins efficace énergétiquement qu'un data center, mais ça ne produit pas le même système socio-technique, quoi. On sort peut-être un peu du cadre, mais...
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, tu as utilisé le terme d'optimisation, et effectivement, je pense qu'il faudrait dire ce qu'on optimise et par rapport à quoi on optimise.
Oui, tout à fait.
Et on voit bien que... Et on revient sur la question du solutionnisme technologique qu'on avait abordé. Alors justement, typiquement, dans le cas des hybrides F1, bah, en vrai, non, on peut pas vraiment les faire chez soi. C'est-à-dire, ça demande déjà des capacités industrielles qui font que on peut pas faire ça. Il faut, enfin, c'est extrêmement compliqué. Okay, il faut arriver à isoler les plans les uns des autres, faire en sorte que ça se, qu'en gros, on va chercher à contrôler la reproduction des espèces de telle façon que toi et moi, on peut pas faire ça dans notre jardin. Donc ça demande justement des moyens à une échelle supérieure. Mais encore une fois, un peu comme l'exemple que tu prends sur le fait de gérer un gros data center, bah, à un moment, on va changer un peu de nature de métier. Donc on retrouve un petit peu ça. Et effectivement, eh bien, toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vis-à-vis de la transition, en tout cas parmi les gens qui sont convaincus qu'il faut faire des choses, il y a des gens qui vont aller plutôt du côté du solutionnisme, c'est-à-dire imaginer comment on peut continuer d'optimiser justement uniquement l'angle technique, et puis d'autres qui vont aussi chercher, à côté de ça, comment on peut optimiser d'autres facteurs comme la façon de s'organiser, la façon de fonctionner, la façon de réduire aussi un certain nombre d'usages, etc., pour trouver aussi des solutions qui reviennent un petit peu à la racine des problèmes.
Ouais, c'est par là qu'on va peut-être se sortir de la dépendance aussi, finalement.
Peut-être, si on réécoutait un petit peu de musique classique, histoire de se détendre un peu après cette envolée.
Je sens que tu m'as encore eu, Stéphane, cette fois-ci. Eh bien, écoute, c'est parti pour la deuxième musique.
Eh bien, c'était un second morceau de Chosto aka Quentin Duchemin, donc qui se nomme Étude, à nouveau au piano, et donc c'est toujours sur, sous CC by SA sur tube.chosto.me. On écoute le dernier extrait de ce, cette série de deux épisodes.
Ce qu'on a découvert avec les semences, on part avec des a priori qui sont ceux de tout le monde. Des semences présentées comme archaïques, y compris par la science, plus du tout adaptées aux enjeux du moment. On est parti pour chercher une alternative aux OGM et en se demandant si ce qu'on raconte sur eux est bien vrai. Les hybrides F1 et la législation dont le catalogue officiel faisait qu'une semence non inscrite ne peut pas être vendue à des maraîchers ou des agriculteurs. On ne s'attendait pas à ce que le bio soit envahi de ces semences verrouillées d'un point de vue technologique et juridique. Qu'elles soient incapables de s'interfacer avec le vivant, en raison de leur mode d'obtention, qui consiste à sélectionner des lignées pures. Que les semences soient sclérosées par cet eugénisme, les OGM n'étant que l'achèvement de cette logique entamée depuis longtemps. Ce qu'on voyait comme une menace était déjà notre réalité quotidienne. C'était déjà ce que nous avions dans nos assiettes. Nous étions confrontés au parachèvement de cette logique, résultat des choix des citoyens, des démocraties actuelles. L'approche est de récupérer de l'autonomie financière et économique, car on s'est aperçu que les semences paysannes tenaient la route face aux semences modernes, que tout ce qui était véhiculé à leur sujet était erroné. À tout point de vue, elles permettaient de retrouver le goût. Elles sont riches en nutriments, notamment en micronutriments qui ne pèsent pour rien dans le poids final, mais qui sont déterminantes dans la qualité alimentaire. Une énorme différence, x30, x40 en termes de micronutriments, même par rapport à des cultures bio. On ne s'y attendait pas du tout non plus. En quelques années, on a pu apporter des solutions à tous les problèmes de la chaîne alimentaire. Quantité, qualité, mais aussi stopper l'explosion des intolérances et des allergies alimentaires, et puis retrouver le goût. C'est la présence des micronutriments qui donne la diversité des saveurs. Le sans gluten se développe, c'est une industrie en plein développement, mais ça repose sur le fait que les gluten des variétés modernes sont de mauvaise qualité. Les personnes intolérantes au gluten pourraient se remettre à manger du blé si on repart sur des céréales à haute paille. J'aurais pu citer des dizaines d'autres exemples. Pratiquement partout où il y a un problème alimentaire, les variétés paysannes arrivent avec une réponse. On a aussi des réponses par rapport
au changement climatique, parce qu'on produit de l'humus avec les variétés paysannes, en utilisant les méthodes appropriées, évidemment. Alors que même en bio, d'un point de vue statistique et si on s'en tient aux seuls critères obligatoires du label, on continue à détruire plusieurs kilos d'humus pour chaque kilo de nourriture sortie du champ. Est-ce que je prononce bien humus, Stéphane ?
Eh bien, je crois, parce que tu as peut-être envie de dire humus.
Mais oui, exactement.
Ça représente autre chose.
Je crois bien. Bien, Éric Marchand nous parlait du catalogue officiel. Peut-être que c'est utile de préciser ce que c'est. Eh bien, son nom complet, c'est le catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Il répertorie les espèces dont les semences sont autorisées et à la vente et à la culture. Alors, en France, ce catalogue, il est créé en 1932 et il est géré par un comité, le comité de contrôle des semences. Il permet d'éviter, dans la profusion de semences, que les différentes variétés soient vendues sous le même nom ou qu'une même variété ait des appellations différentes. Et on peut lire qu'il clarifie l'offre et protège l'utilisateur, qui est ainsi assuré de l'identité de la semence qu'il achète. Alors, moi, ça me rappelle un peu des choses, hein, quand on nous explique qu'on protège les utilisateurs. Du coup, j'ai comme l'impression que ce catalogue ne résout pas tous les problèmes qu'il est censé résoudre, Stéphane.
Alors oui, ça fait un petit peu comme tout à l'heure. On a l'impression que c'est plutôt pas mal. Mais si on creuse un peu, eh bien, il y a un certain nombre de critiques qui peuvent être formulées. Alors encore une fois, hein, on n'est pas spécialiste. Donc là, les définitions que tu nous as données, Quentin, viennent de Wikipédia. Et les critiques que l'on relaie viennent de la même source. Donc certaines associations et certains syndicats agricoles, comme par exemple la Confédération Paysanne, eh bien, estiment que ce catalogue n'est pas adapté à toutes les réalités du monde agricole. Et qu'il peut même nuire à la sauvegarde sauvegarde de la biodiversité. Donc on retrouve un petit peu ce dont on parlait avec les hybrides F1 à un moment. Eh bien, on va avoir une logique de standardisation qui va permettre certaines pratiques industrielles, massives, etc., dont aujourd'hui on commence à voir un certain nombre d'effets négatifs. Et en plus, eh bien, il va avoir comme conséquence d'empêcher le bon fonctionnement de pratiques plus artisanales, plus modestes, plus locales. Eh bien ici, dans le cas particulier, puisque il est nécessaire d'avoir cette référence au catalogue. Donc ça, c'est la première critique. Je ne sais pas si on en a une autre. Tu l'as sous la main, Quentin, ou je continue ?
Je ne crois pas, Stéphane.
Alors, ouais, on l'a un petit peu dit, mais du coup, il y a aussi l'idée, effectivement, que le catalogue officiel, eh bien, il contribue en quelque sorte à privatiser le vivant, puisque, eh bien, on va avoir la logique de propriété intellectuelle va être plus facilement accaparée par des entreprises multinationales, et donc, eh bien, on va avoir des difficultés, par exemple, dans les pays pauvres, on va avoir des décalages qui vont s'aggraver de ce point de vue-là.
Parce que si je comprends bien, je suis pas sûr d'avoir compris, le catalogue officiel contient beaucoup de choses qui sont des hybrides F1.
Oui, exactement. Ouais. Alors, pareil, on n'a pas noté les proportions dans notre préparation, mais il en contient une part très importante. En fait, je crois que ça dépend des espèces, puisqu'il y a des espèces qui se prêtent plus ou moins bien à la technique des hybrides F1. Et je crois que dans le cas où elles se prêtent bien à la technique des hybrides F1, eh bien, en fait, il n'y a quasiment que des hybrides F1 dans ce cas-là. Et les non-hybrides F1 qu'on trouve, ce sont effectivement les variétés pour lesquelles ça fonctionne mal. Et donc, effectivement, on a un système de catalogue qui standardise ce que l'on peut commercialiser et on a le système des hybrides F1, comme on l'a vu, qui oblige à passer par des semenciers. Et donc, in fine, eh bien, on se retrouve avec une sorte de privatisation, enfin de chemin un petit peu obligé pour se procurer des semences pour un certain nombre de variétés. Et c'est là où on crée un circuit commercial particulier. Alors, encore une fois, nous on n'est pas des experts, donc ce circuit, il a probablement du sens, peut-être du sens dans certains cas, probablement du sens dans certains cas, mais en tout cas, ce que l'on peut critiquer, c'est le fait que, eh bien, il empêche les alternatives d'exister. Encore une fois, si on fait un peu le parallèle avec ce qu'on connaît un petit peu mieux, c'est-à-dire la culture libre, fondamentalement, nous qui un Google ou un Microsoft ou un Apple qui existe, n'est pas un problème en soi. Ça devient un problème lorsqu'il y a un moteur de recherche qui empêche d'autres moteurs de recherche d'exister, un système d'exploitation qui empêche d'autres systèmes d'exploitation d'exister, etc., etc.
Et en fait, cet argument, c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure, de protéger les utilisateurs, il n'est pas complètement absurde en soi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, assez ironiquement, mais je veux dire, quand on se retrouve avec, je ne sais pas, Amazon ou Google qui fait certifier ses data centers pour avoir un certain niveau de sécurité, on peut imaginer que ça intéresse des gens qui ont des données extrêmement sensibles et qui veulent pouvoir assurer le niveau de confidentialité. Bon, c'est très ironique quand on se rend compte par ailleurs des énormes fuites de données et puis de l'exploitation des données de certains utilisateurs sur les GAFAM. Et à l'inverse, on voit que sur des logiciels libres, des gens vont faire la critique qu'il n'y a pas de garantie, que ça n'a pas été audité, que ce n'est pas certifié, qu'il y a peut-être des grosses failles dans le code, etc., etc. Mais comme tu le faisais remarquer, Stéphane, eh bien, c'est des logiciels qui servent à énormément de gens qui sont par essence respectueux de la vie privée, avec qui où on peut aller discuter avec les créateurs des logiciels et faire des choses qui sont adaptées à leurs besoins, etc., etc. Et donc, c'est un peu le même cas ici. C'est qu'en voulant protéger de manière très formelle, légale, etc., etc., les utilisateurs, finalement, on se retrouve à empêcher de fonctionner sans une énorme industrie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et quand t'as dit que c'était ironique, en fait, mais en fait, c'est pas ironique tant que ça, justement. Pour moi, c'est vraiment inscrit dans la mécanique. C'est-à-dire que, au départ, on peut considérer qu'il y a une bonne intention. Hein. Souvenons-nous que le slogan de Google, c'était "Don't be evil". Donc voilà, ne soyez pas méchants. Sous-entendu, on va faire les choses pour les gens. Donc au départ, on peut penser que, enfin au départ, même voilà, dans la majorité des cas, ça part d'une bonne intention. Mais en fait, Et je crois que c'est un petit peu l'enjeu de tout ce qu'on essaie de raconter ici, notamment à travers ces émissions et plus généralement ce qu'on fait à Picassov, c'est que la concentration en elle-même, eh bien, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donné le pouvoir, un pouvoir colossal à, encore une fois, une entreprise comme Google ou Facebook, peu importe, ou ici les grands semenciers, eh bien, on a un déplacement des enjeux. Et en fait, le fonctionnement ne peut plus rester comme avant. Google a changé. Google a changé son slogan Don't Be Evil parce que justement, en quelque sorte, il ne peut plus faire autrement. Il est obligé d'être en partie evil pour survivre à la dimension et au niveau auquel il est arrivé. Eh bien, il ne peut plus fonctionner comme il veut, en quelque sorte. Et je pense que c'est un petit peu ce problème-là que l'on retrouve, et c'est peut-être ce que nous, on essaye de défendre, c'est que si on garde des choses à taille beaucoup plus modeste, à taille beaucoup plus humaine, et encore une fois, plutôt dans des logiques d'archipel que de continent, chacune des îles ou chacun des morceaux de l'archipel peut justement continuer de fonctionner un petit peu comme elle veut.
Et alors du coup, pour revenir un petit peu sur notre sujet, on a entendu plusieurs fois le terme semences paysannes, et même dans la vie de tous les jours, on en entend parler. Mais qu'est-ce que c'est du coup les semences paysannes? C'est que des trucs qui sont pas au catalogue officiel?
Alors, effectivement, et je pense que ça fera un peu notre conclusion, hein, puisque c'était un petit peu le sujet finalement de cet article. Les semences paysannes, alors toujours pareil, hein, des définitions extraites de Wikipédia, pas du tout. Ah si, peut-être.
Si,
de Wikipédia, j'ai deux références devant moi. Les semences paysannes, qu'on peut appeler semences de pays ou semences anciennes, sont celles qu'un agriculteur prélève dans sa récolte en vue d'un semis ultérieur. Elles peuvent être, j'imagine, au catalogue officiel. En tout cas, c'est pas obligatoire. Mmh. Elles ne sont pas nécessairement issues de semences certifiées achetées à un semencier. Donc, en fait, finalement, une semence paysanne, c'est plutôt l'idée, je pense, que la majorité des gens se font d'une graine et du fonctionnement de l'agriculture. Je plante un truc, ça fait des fruits, je récupère les graines, je les replante, je retiens des fruits. On pensait que ça fonctionnait comme ça. On se rend compte, effectivement, que dans notre monde moderne, ça fonctionne pas comme ça en général. Et en gros, l'idée, c'est d'y retourner. Donc, on voit bien, on est justement pas dans le solutionnisme technologique ici, mais plutôt dans le fait de revenir à des choses un peu de base et voir dans quelle mesure parfois elles fonctionnent bien.
Et alors, d'ailleurs, juste un petit mot quand même là-dessus. Il y a eu en 2020 une modification de la loi concernant les semences paysannes. On peut lire sur Service Public que, je cite, des semences non inscrites au catalogue officiel en raison de leur instabilité ou de leur hétérogénéité, comme par exemple des variétés anciennes, peuvent désormais être vendues aux jardiniers amateurs ou échangées. Jusque-là, seules les semences d'une variété inscrite au catalogue pouvaient être commercialisées. En revanche, ces échanges ou ventes de semences de variétés appartenant au domaine public sont limités à des utilisateurs non professionnels qui ne feront pas une exploitation commerciale de la variété. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait été présenté comme une grande avancée, comme une grande victoire. En vérité, je pense que ça fait que légaliser une pratique qui existait déjà, hein, évidemment, entre agriculteurs ou cultivateurs, enfin, je veux dire, gens du coin, on s'échange des semences et puis on se vend peut-être des légumes sur des petits marchés. Donc je pense qu'on est loin d'une avancée qui permettrait de changer un peu de système.
Alors, tu as raison. En revanche, l'avantage, on va dire, c'est que ça permet la pratique au moins de la vente en ligne de façon légale. Donc, il y avait déjà des organisations qui pratiquaient ça.
De semences, oui.
Ouais, ouais. La vente de semences en ligne de façon légale. Donc, encore une fois, il y a des organisations qui pratiquaient ça avant cette loi, mais donc elles étaient dans l'illégalité. Il y a eu quelques procès, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est légal. Et donc, puisque c'est légal et que ça existe, eh bien, j'invite tous les jardiniers amateurs à se rendre sur, par exemple, jardinenvie.com. Il existe d'autres vendeurs. Et du coup, vous pouvez acheter vos graines. Hein, ils livrent. Donc, vous pouvez vous les faire livrer. Je l'ai testé pour vous. Ça fonctionne. Donc, ils vous livrent des graines. Et au moins, eh bien, en faisant ça, on participe un petit peu du soutien de ce mouvement des semences paysannes. Alors, encore une fois, c'est peut-être une goutte d'eau, puisqu'évidemment, on représente toute petite quantité des graines. Mais si au moins tous les jardiniers amateurs passaient par là, eh bien, ça permettrait quand même de montrer que ça fonctionne, et puis de donner un petit peu de sens justement à cette loi.
Ouais, je crois qu'on a vu pas mal, on a fait un petit tour d'horizon de l'article, Stéphane.
Oui, écoute, on va s'arrêter là. Hein. On a conclu sur les semences paysannes, donc on termine avec le sujet de départ. Pour rappel, hein, donc c'était le deuxième épisode d'une double émission qu'on a appelée Culture libre et culture paysanne, dans lequel on a essayé d'expliquer un petit peu le contenu de l'article qui s'appelait Les GAFAM du légume, paru sur le Frama blog. Et on a fait tout ça à partir essentiellement de sources issues de Wikipédia, puisqu'évidemment, ni Quentin ni moi ne sommes des experts de ce sujet.
Oui, ne nous en voulez pas si on a fait quelques approximations. Et puis merci beaucoup aussi à Suentam pour les lectures audio. C'est toujours un plaisir de l'écouter.
Et à Chausto pour la musique, bien sûr.
Bien, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas, mais dans tous les cas, dans 15 jours, le 15 décembre, on aura le plaisir de recevoir Stéphane Bortmeyer pour une émission passionnante sur les DNS, un système qui est un peu une clé de voûte de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui et dont les enjeux sont tout aussi passionnants. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine, à la prochaine et bonne journée. Ciao.
Au revoir.